réflexion sur le problème des slichot. Mais je vous avoue que le cours de tout à l'heure m'a fatigué, alors je ne suis pas très... C'était la chaleur, oui. Simplement, je voulais vous dire une chose. Il y a une différence entre le rite ashkenaz et le rite sfarad, pas seulement du point de vue des contenus des textes, qui sont très différents, et même chez les ashkenazim, il y a au moins, si mes souvenirs sont exacts, six de rimes différents, suivant les Allemands, les Polonais, les Lituaniens. Et ces différences se sont développées à partir de l'existence des livres imprimés. Et chaque communauté a imprimé des livres différents. Et donc, les slichot du rite sfaradi commencent le premier de Loul, comme vous le savez. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi, alors que les slichot du rite ashkenaz commencent le 25 Elul, c'est-à-dire la semaine qui précède Rosh Hashanah. Et suivant le fait que le Shabbat est loin avant Rosh Hashanah ou près de Rosh Hashanah, ça commence un peu avant, un peu après, mais en général c'est le 25 Elul que ça commence. Alors je vais vous expliquer très rapidement ces deux dates. Pour le rite sfaradi, c'est basé sur le fait suivant, c'est que la faute du Vaudor a eu lieu le 17 Tammuz. Ensuite, il y a eu 40 jours pendant lesquels Moïse a prié. Et ces 40 jours se terminent le 1er Elul. Et du 1er Elul au jour de Kippour, c'est-à-dire le 10 Tishri, il y a eu les 40 jours pendant lesquels Moïse a reçu les deuxièmes tables de la loi. Et donc, la période du 1er Elul est reliée à la prière de Moïse, au moment des événements de la génération du désert. C'est suffisamment clair ce que je veux dire ?
3 fois 40 jours.
Il y a les premiers 40 jours, c'est du 6 Sivan au 17 Tammuz, ensuite du 17 Tammuz au 1er Elul, et ensuite du 1er Elul au 10 Tishri, le jour de Kippour. C'est la raison pour laquelle le jour de Kippour lui-même n'est pas une date arbitraire dans le calendrier, elle a aussi cette date, une commémoration historique. C'est le jour où les deuxièmes tables de la loi ont été rendues. Donc c'est le jour où il s'est avéré qu'il y a eu expiation de la faute du Vaudor. Donc c'était le premier jour historique de l'expiation, était le 10 Tishri de la génération du désert. Alors que dans la tradition ashkenaz, on se base sur une donnée de la Kabbalah d'ailleurs, c'est que c'est le sixième jour que l'homme a été créé, et par conséquent, l'histoire commence à Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier Tishri, qui est le sixième jour de la semaine du commencement, et c'est le premier jour de la semaine du commencement qu'on commence les slichot. Vous avez compris l'organisation du temps dans le rite ashkenaz. C'est aussi relié... Comment ? C'est une donnée de la Kabbalah, oui.
C'est pas le pshat de Bereshit ?
Nahon, mais c'est expliqué de cette manière par la Kabbalah. C'est-à-dire, non, le fait que le jour que commémore Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour de la création du monde, mais le jour de la création de l'homme. C'est relié à cela. Alors, il y a aussi une indication dans la Kabbalah, c'est que le verset de Yehior, Yehi a pour valeur numérique, que soit la lumière, Yehi a pour valeur numérique 25. C'est relié aussi à Hanouka, qui est le 25 qui se lève. Donc l'apparition de la lumière, c'est le premier jour, c'est donc le 25 Elul, et le 25 qui se lève pour Hanukkah. Les textes que nous avons dans le rite sfaradi sont des textes déjà du rituel du temps du deuxième temple, et auxquels se sont ajoutés des poèmes, des slichot, des pismonim, des mizmorim, du judaïsme espagnol surtout, et aussi plus récents. Ce qui fait que vous avez des textes communs à la tradition des Juifs du Mashrek, c'est-à-dire les Babyloniens, les Irakiens, les Syriens, et aux Juifs espagnols et d'Afrique du Nord. Et vous avez des textes plus récents qu'on ne trouve que là, dans l'un ou l'autre rite. Mais en général, le gros des textes est commun à tous les sfaradim, et sont des textes très anciens. Les mélodies d'ailleurs sur lesquelles on les chante sont très certainement originellement non pas de musique andalouse ou arabe, sauf certains textes qui sont connus et qui sont très récents, sont des mélodies originelles du temps du deuxième temple, anciennes. Pour ceux qui connaissent bien la musique andalouse, en fait, ce qu'on appelle la musique arabe, mais en réalité c'est la musique andalouse, on ne retrouve pas les modes qu'on utilise pour les slichot et les amim noraim dans la musique andalouse. On raconte, je ne me rappelle plus ni l'époque ni le nom des personnages, ce soir je suis un peu fatigué, mais ça me reviendra un jour. Un très grand musicien juif du Maroc a été une fois convoqué par un sultan et qui lui a dit « Ce que je veux, c'est entendre de la musique que j'ai jamais entendue. » Alors le musicien était très perplexe, quelle musique il a jamais entendue. Et puis il a eu l'idée de lui chanter les mélodies des slichot. Alors le roi a été tellement émerveillé que depuis ce temps-là, les chefs des grands orchestres des sultans du Maroc étaient les juifs. Or aujourd'hui encore, les spécialistes de la musique andalouse, qui est surtout au Maroc actuellement, elle existe en Algérie, en Tunisie, partout, chacune avec son style, mais elle est surtout vivante actuellement au Maroc, par la grande musique andalouse du Moyen-Âge, vont chez les spécialistes juifs pour raccorder leurs modes musicaux. Il y a des choses qui leur manquent. Alors, ils viennent chez les juifs étudier comment on chante les prières pour arriver à retrouver un peu les modalités qu'ils ont perdues. Enfin, c'est toute une histoire, c'est la musique marocaine. Il y a plusieurs dizaines de modes musicaux de la musique andalouse, et les modes qu'on utilise pour les chants des slichot, ça s'appelle en arabe « sbouhé », ça veut dire les modes du matin. Et ce sont de très belles mélodies. Malheureusement, dans les synagogues devenues popularisées, tout le monde chante faux, à contre-temps. C'est épouvantable, ça donne mal aux reins. Mais si vous avez la chance une fois d'écouter un bon chazan chanter ces mélodies-là, ça nous renvoie dans les siècles du passé de manière majestueuse, si j'ose dire. Bien, alors nous allons étudier la traduction du premier des textes de l'introduction au slichot que je vous ai fait photocopier. Alors, pour chaque expression, il faudrait, du point de vue de l'érudition, que je vous donne toutes les références des versets de la Bible d'où les expressions sont tirées. Non, on ne va pas étudier comme ça, parce qu'on restera encore sur le premier verset, comme d'habitude. Mais, parce que l'habitude des grands païtanim sfaradim, c'est que tout le grand modèle, c'est Judah Lévi, Gebirol, Maïmonide, aussi qui était un très grand poète, et d'autres, Moshe Ibn Ezra, David Ibn Ezra, non, David, c'est le nôtre. C'est Abraham Ibn Ezra, d'ailleurs, il descend des grands Ibn Ezra, je ne sais pas si vous le savez, en ligne directe. C'est un grand des grands. C'est Abraham Ibn Ezra et Moshe Ibn Ezra. En particulier, le jour de Kippour, on chante des slirotes d'Abraham Ibn Ezra, qui sont très belles. Eh bien, ils ont chacun d'entre eux un style original, et la grande poésie du Moyen-Âge. Mais tout ce qu'ils disent est pris des expressions hébraïques, des versets de la Bible. Je vous donnerai un exemple dès le début. Alors, je vais lire la première strophe, d'abord. C'est « Yashen alter Adam ».« Yashen », toi qui as endormi, « Yashen »,« alter Adam », ne somnole pas. Là, l'expression est prise du livre de Jonas. C'est dans le premier chapitre, si je me souviens bien, c'est au verset 6. C'est ça? C'est le verset dit ceci, Ben Adam, Malechanirdam, Kunkera l'Elokecha. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as à dormir? Lève-toi à invoquer ton Dieu. Vous vous rappelez quand les marins étaient affolés par la tempête, ils s'adressent aux Juifs. Et Yonah d'ailleurs dit lui-même, Eivri Anochi, je suis hébreu. Okay. Et il lui dit, tout le monde est en train de prier son Dieu, et lui dormait. Alors les marins l'interpellent et disent, Malechanirdam, qu'as-tu à être somnolent? Kum kera elokecha, lève-toi invoquer ton Dieu, c'est l'expression qu'on a pris au début de ce texte. Va'azov ithalehecha. Ce mot va'azov est abandonne, quitte tes rêveries, insanité. Ce mot c'est dans l'Ecclésiaste que ce mot-là, dans les versets de la Bible. C'est holelot, holelim et holelot. Ça veut dire des rêveries insensées. Va'azov ithalehecha. Ici, la forme a été un peu poétisée. crois que l'idée, c'est l'idée de le fait de s'abandonner à la somnolence et à la rêverie qui fait s'écarter de la réalité. Donc, Yachel, c'est un peu plus profond, ça veut dire l'homme vivant est défini comme un être endormi. Et par conséquent, sa vie éveillée elle-même n'est que rêverie vide de réalité. Arhek bene Adam, éloigne-toi des hommes, veshur darke gevoecha, et contemple, considère, c'est dans le sens de contempler, shur, les chemins gevoecha, de tes hauteurs, c'est-à-dire les chemins qui mènent à la vie éveillée vraiment. Verus la'avod turkadam, et empresse-toi, cours à cours, pour servir le rocher antique, sur, je vais vous le dire un peu en hébreu moderne, Atsur Asher Kadam, le rocher qu'il y avait depuis toujours avant, qui a précédé tout. Kerutz Korveg Negohecha, comme courent les étoiles de tes splendeurs. Ça veut dire tes étoiles splendides. De la même manière que les étoiles dans le ciel ont une course qui est le service de leur créateur, alors toi aussi cours à ton service à la manière de ces étoiles des hauteurs qui dans la course et le service de leur créateur. Malecha Nirdam, voilà le verset qui revient, Malecha Nirdam, qu'as-tu à somnoler, kum kerel erecha, lève-toi, mais dans le sens de se décider à la kum, invoque ton Dieu. Une minute, je veux dire, il y a ici un thème très important dans la poétique universelle d'ailleurs, mais qui a été très particularisé par la poésie du Moyen-Âge espagnol, en particulier, c'est il y a la conscience éveillée et la conscience endormie. Et les slichot sont une liturgie du réveil, alors qu'il serait normal de dormir, pour être plus éveillé que le temps de la vie éveillée de la journée. Ceux qui ont vécu des slichot savent qu'il se passe cela. C'est cela qui se passe à ce moment. Quelle est ta question ?
Au début, il y a cher de la garde.
C'est pourquoi j'ai ajouté peut-être trop rapidement. C'est que même l'homme éveillé est appelé par ce texte un être endormi. C'est-à-dire, je vais essayer de reprendre un peu les termes de l'autre cours quand j'ai parlé du rêve. Quand Jacob a eu son rêve pour appeler et qu'il s'est réveillé, alors, il a dit, Achen, yesh Hashem bamakomaze, v'anochi lo yadarti. Ainsi, il y avait Dieu dans cet endroit et moi je ne savais pas. Il ne l'a su qu'en rêve. Et quand il s'est réveillé, il s'est aperçu que dans son rêve il savait, mais dans la vie éveillée il ne savait pas. Alors, en fait, il faut inverser cela. C'est-à-dire, dans notre vie éveillée, nous sommes comme si nous étions dans un rêve. Donc, il faut se réveiller du rêve, de la vie soi-disant éveillée, pour être vraiment éveillé. C'est clair ce que je veux dire ? C'est-à-dire, en fait, dans notre vie consciente, nous rêvons. Mais nous ne savons pas que nous rêvons. Et que ce n'est que lorsqu'on se réveille d'un rêve qu'on sait que c'était un rêve. Alors c'est cet appel, toi qui es endormi dans ta nature d'être éveillé, ne t'en somnole pas, réveille-toi vraiment. Je ne sais pas si c'est suffisamment. Je crois qu'il faut faire cet effort-là.
Hein ? Sortir du monde des chimères.
Oui, c'est-à-dire le monde de la réalité n'est qu'un rêve. Mais on ne le sait que c'est un rêve quand on est réveillé du rêve. Alors l'appel des slichot, voilà. C'est-à-dire, au moment de la prière, on est plus réveillé. On se réveille de la réalité qui n'est qu'un rêve. C'est-à-dire que... Je reprends la phrase de Jacob. Je voudrais retrouver dans ma mémoire le texte exact du Midrash que je vous cite là et qui dit ceci. Oui, cette phrase, nous pourrions le dire dans la vie éveillée même. C'est-à-dire, dans la vie éveillée, nous ne voyons pas la présence de Dieu. Ça veut dire que, ainsi, il est là et je ne le savais pas. Quand est-ce qu'on le dit ? Quand on se réveille de la vie éveillée qui n'est que rêve. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? C'est-à-dire que, lorsqu'on se réveillera de la vie de ce monde, alors on saura que Dieu était présent mais qu'on ne savait pas. Ce verset est dit au moment du réveil. De ce qu'on appelle, d'une façon générale, la nouvelle naissance. Je vais essayer de faire allusion à cette expérience d'une autre manière. Je crois que c'est cité il y a un mois dans le cours. C'est que, en général, nous sommes plongés dans une réalité qui ne porte pas avec elle l'évidence qu'elle a un sens. Mais il arrive inévitablement, c'est une promesse qui est faite à la naissance, d'après le Midrash, qu'il y a un moment dans la vie au moins, il y a des privilégiés qui ont plusieurs moments, où on a une expérience où subitement on a plus qu'impression, expérience, qu'il y a de l'absolu, que yesh, qu'il y a du sens, il y a de l'absolu, que, et puis c'est furtif, ça se recache. C'est clair ce que j'ai dit là ? Bon, c'est dans le même sens. Alors, c'est le moment privilégié de la prière, avec Kavana, où on se rend compte que il y a des raisons pour lesquelles on est plongé dans un monde qui apparaît comme étant un monde d'apparence, mais qu'en est-il réel et qu'il faut se réveiller des apparences. En plus, c'est très beau poétiquement. Si vous entendez la métrique, comme disent les grammairiens, de cette prosodie hébraïque, c'est extraordinairement beau. Alors, d'un coup, on est pris dans l'atmosphère du contenu du texte. C'est pas que de la piété pieuse, okay ? C'est plus profond que ça. L'homme est appelé Yachel. Voilà. Toi qui dors, réveille-toi. Mais comment, je dors pas, puis tu me parles, okay ? C'est un peu ta question.
Okay. Et, est-ce que la répétition des phrases comme Yachel Alteradam et qui revient à chaque fois, est-ce qu'on peut considérer ça uniquement comme une forme de style pour le texte, pour le poète ? Ou est-ce que la répétition a une importance dans l'interpellation que fait le texte ?
Ah oui, bien évidemment. D'ailleurs, je pense que tu ne penses pas exactement à Yachin Alteradam, mais à Malechanirdam, comme quel refrain.
Est-ce que chaque strophe n'annonce pas une nouvelle étape du
monde ? Absolument. Absolument. Et en fait, cette phrase est privilégiée comme refrain parce que c'est un verset. Et qu'il y avait une telle familiarité chez les Juifs au courant de leur tradition, c'était normal que le poète qui veut parler du réveil de ce sommeil dans l'apparence utilise un verset que tout le monde connaît. C'est comme ça que les Juifs disaient cela, en citant le verset de Genèse. Alors, c'est arrivé avec le temps traditionnel, ça a pris une épaisseur de ferveur assez extraordinaire. D'ailleurs, il faudrait, j'ai pas la voix qu'il faudrait, mais ça se chante ces textes-là, ça se lit pas comme ça. Et le rythme même du mode choisi fait partie de la signification. Il y a une espèce de mélopée d'incantation, d'interpellation qui va avec le texte. Et chaque texte a sa mélodie. Hein. On peut pas changer de mélodie. Peut-être tout à l'heure, si ma voix revient, je vous le chanterai. Enfin, tout à l'heure, Oslichot, ceux qui viennent de venir, écouteront David Ben Ezra le chanter. Alors, deuxième strophe. Haketz lirot shamav, réveille-toi Haketz lirot shamav, pour voir ses cieux. On a parlé tout à l'heure de Shamaïm. Alors shamav, c'est la forme de la troisième personne du pluriel, shamav. Ashamaïm shelo, veit maase tzberotav, et l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire, réveille-toi pour voir le monde comme il l'a créé, comme on a dit tout à l'heure, derrière les apparences du sommeil de somnolence. C'est-à-dire aussi cette expérience de laquelle nous parlons souvent à propos des versets qui en parlent, que c'est dans le spectacle du monde tel qu'il est, le monde des apparences, que l'on peut voir la réalité essentielle qu'il y a derrière. J'avais dit souvent, c'est les Midrashim qui l'expliquent ainsi, et la Chassidoute a repris cela. Celui qui voit le monde qu'au niveau de la vision des apparences, quelle que soit la profondeur poétique de l'artiste, finalement reste dans la mélancolie, reste dans l'angoisse, reste dans le regret que ce ne soit pas absolu. Et c'est clair ce que je dis là. C'est-à-dire, la différence qu'il y a entre l'artiste et le prophète, c'est que l'artiste voit la beauté des apparences, mais comme apparence. Alors que le prophète voit plus profondément l'essentiel qui s'exprime dans ses apparences. Alors il y a joie. Et je crois que une des choses qu'on peut mettre en évidence, c'est que la tradition juive a critiqué le monde des artistes à cause de la tristesse de mélancolie qui s'y attache. Je pense surtout au romantisme, mais même chez les classiques. Il y a une expression de la majesté du monde, mais qui entraîne de la mélancolie, parce que c'est que ça, que beau, qu'apparence. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Il y a ici cette espèce de désespérance de l'âme grecque, qui était très esthétique, mais en même temps tragique. Tandis que le prophète voit le même monde, mais au niveau de la conscience éveillée, et ça entraîne la joie. Parce qu'on voit l'absolu qui s'exprime derrière cette apparence. Il y a des expériences mystiques, entre guillemets, dans la Chassidoute qui vont beaucoup plus loin. Où on voit l'apparence comme absolue. Bon, c'est pas la peine de s'envoler jusque-là, mais je reprends l'expression. Haketz virot shamav. Réveille-toi pour voir son ciel, pas ton ciel comme tu le vois toi, mais son ciel comme il l'a créé. C'est parallèle à ce que nous avons étudié une fois pour la Tfila. Quand on demande dans la prière, on demande à Dieu, ramène-nous à ta Torah. La différence avec notre Torah, telle qu'on peut la percevoir, mais ta Torah comme tu la connais toi. C'est clair? C'est très parallèle. Veit ma'ase etzveotav, et l'œuvre de ses mains. Vous savez, le thème qu'il y a là, c'est un thème finalement très simple du point de vue de l'exégèse. C'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors il y a les cieux et la terre du commencement, tel que Dieu les a créés. C'est l'appel à percevoir cela. Ve'abet aholé meroma, et contemple les tentes de ses hauteurs. Bon, il faudrait un poète pour vous expliquer ça. C'est-à-dire les cieux qui sont comparés à des tentes ohel. Main, oui. Okay. Teluim bizlorotav, qui ont été suspendus par ses propres poignets, par ses propres bras. Vechochbehem chotamav, et leurs étoiles, les étoiles de ces constellations, sont leur sceau, leur marque. Pitouche tabeotav, c'est les. Vous savez, un bijou qui est ouvré, ouvragé, mais ouvré. C'est un terme de bijouterie, si je me souviens bien. Vous voyez, cette bijouterie yéménite où il y a des. Comment on appelle ça?
Gravé.
Non. Oui. Avec c'est transparent, on voit la lumière derrière, Ken. C'est pitoir.
Avec des jours.
Avec des jours, ajouré, oui. De ces anneaux. Oufrad mi penéema. Et aie peur des craintes que cela représente. Et soit pris de peur devant cette erreur. Ufrad mi pene emav. Emma, c'est la terreur. Comme pahad. Emma. Emma. Utiahel et yeshuotav. Mais vit l'espérance de ses saluts. C'est-à-dire, il y a l'appel à ces deux expériences. C'est-à-dire, la terreur de l'harmonie, de la perception de l'harmonie, et en même temps l'espérance que cela indique. C'est-à-dire, le fait de rencontrer la cohérence, ça donne le vertige. Ça, c'est l'expérience de la crainte. Ufrat mi penema, mais en même temps, utiahel et yeshuota. Est-ce que c'est clair? La contemplation de la nature distille deux expériences différentes. Le vertige de l'horreur du sacré, comme disent les païens, devant l'absolu de l'harmonie, et en même temps le fait que puisqu'il y a harmonie de l'absolu, il y a espérance de quelque chose derrière plus haut. Plus que consolation.
Plus que consolation.
Ça, c'est un vocabulaire. Pas exactement celui de la tradition. En français, on est très embêté. Il y a dans le vocabulaire chrétien une beaucoup grande, plus grande importance de l'idée de consolation. Mais là, c'est plus. Vous avez l'espérance et la foi. La foi en quoi? Le salut de cette condition des apparences. La foi est beaucoup plus espérance que consolation dans la tradition juive. Et c'est le christianisme qui a insisté sur le côté maternel. De la consolation. Et indéniable, la nature humaine a besoin de consolation. Mais peut-être plus profond encore, elle a besoin de certitude d'une espérance. Être consolé, bon, ça veut dire on t'a fait du mal, on va te mettre un pansement. Hein? Mais il y a plus que ça. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est pas assez clair? Ah, Ken, j'ai entendu non. Top. Penzeman yarbiherka. Alors là, c'est très fort. Tout ça, c'est pris des versets de la Bible. De peur que le temps ne t'élève, c'est l'idée de l'orgueil, et que ton cœur s'enorgueillisse dans ton élévation. Ça veut dire, reste assez lucide pour avoir le respect et l'espérance devant l'absolu, de peur que tu ne sois pris du vertige qui te rend orgueilleux, et que ton élévation elle-même fasse que ton cœur se soit enorgueilli. Alors il y a là tout le problème que beaucoup de poètes de l'Antiquité, et même des philosophes de l'Antiquité ont indiqué, c'est que l'homme est capable d'un dévoilement de sagesse dans la contemplation des cieux. C'est très poétiquement formulé ici. Et l'homme, par exemple, je cite Platon, l'homme, parce qu'il est de station debout, est devenu philosophe, dit Platon. Pourquoi ? Parce qu'il peut regarder le ciel. Et la contemplation des étoiles le rend philosophe. Et il y a ici ce thème-là. C'est-à-dire que la contemplation de... Alors, il faudrait employer des termes poétiques en foule, de l'immensité, de l'absolu, de ce que peut nous suggérer cette contemplation du ciel, mène à la foi. Mais le fait que l'homme animal redressé peut contempler le ciel, ça risque de lui donner le vertige de croire que c'est lui qui est le contemplateur. Vous avez vu à peu près l'idée qu'il y a.
Ce qu'il y a de surprenant, c'est la contemplation du matériel.
Non, des choses célestes. Regardez bien. C'est quand même matériel d'une certaine manière.
Il n'y a pas abstraction totale.
Il n'y a pas de...
Abstraction
totale. Eh bien, c'est un peu indiqué à la fin. C'est-à-dire, cette contemplation du ciel qui mène à la spiritualité, à ce danger du vertige, de l'orgueil, qui... C'est un peu cela que ce que vous dites implique. Ça veut dire, il faut savoir que derrière ce monde donné à ta contemplation, il y a un créateur. C'est indiqué dans la première stanza. Et la différence entre le philosophe et le croyant, finalement, c'est cela. C'est que le philosophe comprend la profondeur du ciel, mais a tendance à se croire, à se prendre pour l'être qui contemple, et il n'y en a pas d'autre. Okay. Et alors, il dira que les choses qu'il contemple sont divines, mais elles sont divines parce qu'il les contemple. Alors que le croyant sait que cette œuvre est divine en tant qu'œuvre, qu'il est relié au quelqu'un qu'il y a derrière ces choses. Quelle est la différence? C'est l'orgueil. Vous savez, j'ai beaucoup pratiqué la philosophie pour pouvoir comprendre ce que c'est, d'abord, et ensuite pour pouvoir parler le langage du temps, parce que le langage du temps est finalement le langage de la philosophie. Et une des expériences que j'ai eues, c'est qu'il y a derrière toute philosophie un orgueil incommensurable. C'est moi l'être et je parle. Okay, c'est évident. Il y en a un seul qui s'est laissé trahir par son orgueil, c'est Spinoza. Et ça a été épinglé par un très grand historien de la philosophie, qui s'appelle Alexandre Kojève, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui est d'origine juive, qui était juif, ses enfants étaient d'origine juive, ils sont mariés les goïms, mais j'ai eu le privilège, je ne me rappelle plus quand, mais il n'y a pas très longtemps, de rencontrer une des dernières descendantes qui revient au judaïsme. C'est un très grand philosophe. Alors, historien de la philosophie. Alors, parlant de Spinoza, il avait dit cette phrase, « Je t'ai démasqué, tu es fou, tu t'es pris pour Dieu. » C'est ce qui est arrivé à Spinoza. Oui. Mais derrière, parce que Alexandre Kojève explique de façon très, très profonde et très jolie, l'éthique de Spinoza explique tout, sauf que Spinoza a écrit ce livre. Ça veut dire qu'il s'est pris pour Dieu. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Hein? Oui, il s'est pris pour Dieu. Et alors, un de mes maîtres, un de mes grands maîtres d'ailleurs, Jacob Bordin, avait écrit un article des très célèbre dans l'installation précédente. Spinoza s'appelait Benedictus en latin. Et l'article était intitulé Maledictus Spinoza. Alors, ce que je voulais dire, c'est que derrière toute philosophie, il y a cette espèce d'orgueil de la pensée, c'est moi l'être qui pense. Comme disait Descartes, on pense à autre chose, je pense donc je suis. Mais seul Dieu peut dire je suis. Et surtout chez les philosophes qui parlent comme s'ils étaient modestes. Il y a dans la modestie du philosophe un orgueil dont vous n'avez aucune idée, incommensurable. En plus, je suis modeste. Comme disait le héros de la famille Hernandez, beau mais modeste. Vous avez vu la famille Hernandez? Oh mon, la culture patawette, par exemple. Oh, voilà. Et je dois dire que beaucoup de philosophes honnêtes sont très gênés par ça. Et alors, c'est pourquoi la philosophie existentielle finit par devenir angoissée. Parce que le philosophe sait très bien que c'est lui qui parle. Et alors, il est angoissé de savoir qu'il parle dans le silence. Vous avez compris tout ça. Alors, il y a une exhortation à cela, un peu dans le sens de votre question. Ça veut dire, contemple cette majesté du monde, ça te fera réfléchir, accès à la sagesse, mais à la sagesse du Créateur. Reprenons l'hébreu. « Akes lirot shamav » il y a quelqu'un à qui ses cieux appartiennent. « Vet maases verotav, verbet haole meromav, teluim bizlorotav, vechokbeem hotamav, pituche taverotav, upa ufhad mipeneemav, utiachel et yeshuotav, ben zeman yachbihecha, veram levavecha verovecha, malecha nirdam, kumkera l'Elohech. » Vous avez vu d'ailleurs le rythme de cette prosodie. On continue ? De peur, ah oui, ça j'ai pas encore expliqué. Le fait de prendre conscience que je dure, ça renforce cette impression orgueilleuse que c'est moi l'être. Vous savez, le propre, et ça c'est Bergson qui l'a expliqué à sa manière, le propre de la manière d'être homme, de la manière de l'homme d'exister, c'est de durer. Et le fait que je dure, c'est cela qui est la racine, l'origine, la source de ce risque d'orgueil. De peur que le temps de ta durée ne te rende orgueilleux. Il y a une très belle phrase de Judas Lévy dans un tout autre poème qui dit je cherche la traduction en français, c'est pas aide-moi, permets-moi, mais enfin, fais que je me courbe avant que ce soit mes os qui se courbent tout seul. Vous voyez, c'est très joli comme expression. C'est-à-dire, finalement, on va se courber. L'âge, la vieillesse. Mais qu'on ait le mérite de savoir se courber avant qu'on soit courbé.
Hein?
C'est cela.
Cette phrase sur Usman, c'est le contraire de ce que.
Comment ?
Parce que celui qui prend compte du temps de sa vie arrive à la Chochma, on l'a dit dans notre texte.
Oui. Mais rappelle-toi ce qu'on a.
Là, le temps de la vie amène à l'orgueil.
Non, rappelle-toi ce que nous avons expliqué. Okay. Celui qui prend conscience du caractère éphémère du temps, l'iot yamenu ken de vaïchen, ken. Que c'est rien du tout, je veux dire, celui qui prend conscience que quel que soit le temps de sa vie, il y a une fin, et bien il est déjà fini, parce que qu'est-ce que c'est que le temps de sa vie, 70 ans, 80 ans devant l'éternité, ça veut dire celui qui croit qu'il est mortel, il est déjà mort. Est-ce que c'est clair? C'est la condition du mortel qui ne se connaît que comme tel, destiné à la mort. Alors, si la mort, c'est vraiment la mort, il est déjà mort. Il est en survie.
Alors, quand ce moment-là, il va se rendre optimiste.
Comment ?
Quand ce moment-là, il est devenu optimiste.
J'ai pas entendu le premier mot.
Quand ce moment-là, il est
devenu
optimiste.
Quand ce moment-là, quoi ? Non, ça veut dire, sachons. Non, sachons que le temps, ça c'est ton verset de psaume, n'est que éphémère, okay, mais si je crois que le temps, c'est le temps jusqu'à la mort, alors le fait que je dure malgré la mort rend orgueilleux. Alors on continue. Vetse bahatzot alelot. Ça aussi c'est très joli poétiquement. Et sort dans le minuit des nuits, dans le milieu des nuits. C'est comme hatsi, laïla, hatzot alelot. C'est très joli ça. Et sort, il faudrait dire, dans le midi des nuits, hatzot. Be'ikubot Anshechemot, sur les traces des gens de renom, première traduction. Anshechem au pluriel, ça devient Anshechemot. Anshechem, c'est des gens de renom. Mais il y a un sens plus profond. Anshechemot, de ceux qui comprennent le sens des noms, comme on a vu d'ailleurs, coïncidence, dans le cours de tout à l'heure. Anshechemot. Et il y a certains rabbins de la Kabbalah qu'on appelle les Dorshechemot. Ceux qui sont capables d'expliquer les noms. Dorshechemot. Rav m'a posé une question tout à l'heure après le cours, mais je voudrais vous dire, et rappelez-moi pour les autres fois, si vous avez une question à poser, n'attendez pas après le cours, pour deux raisons. D'abord parce que la question intéresse tout le monde, et c'est dommage du aparté privé, et qu'ensuite, dès que le cours est fini, il est fini. Vous savez, il y a un robinet qui s'ouvre, quand il se ferme, il est fermé. Alors c'est effectivement des hachamim qui savent expliquer qu'est-ce que ça veut dire Abraham, qu'est-ce que ça veut dire Yitzhak, qu'est-ce que ça veut dire Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire Shulchan. Vous vous rappelez de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, Anshe Shemot. Alors c'est les Anshe Shemot qui savent dire la prière. Alors va sur leur trace. Ikevot. La prononciation sfarad, c'est l'ancienne prononciation exacte. Il y a un dagesh dans le kouf. Ikevot. Le hakev au pluriel, le talon. La prononciation moderne, on dit Ikevot. Anshe Shemot. Asher bilshonam tehilot, ce que je viens de dire, qui ont dans leur langue des louanges. Mais la vraie louange, c'est la définition. Ils savent parler, donc ils savent prier. Suis-les. Ve'en tocham tochum irmot. Et leur vie intérieure, tocham, ce qu'il y a dans le toch de leur personne, n'est pas toch, deuxième sens du mot toch, qui signifie mirma, la ruse. Okay? Toch a deux sens. Tor, ça veut dire ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on cache. Et tor, ça veut dire la ruse. Un peu dans le sens de mirma. Donne-moi un synonyme de ruse en français. Tromperie. Tor ou mirma. C'est ça? Oui. Main? Fourberie, oui. Vous voyez la relation qui est faite entre ici deux notions. Ceux qui savent dire une vraie louange sont des gens qui sont incapables de tromperie. Leur parler est franc. Okay. Pas dans le sens du franc-parler. Nahoud. Ben tocham tochumirmot. Lelotehem tefilot. Leurs nuits sont des prières. Alors le sens immédiat, c'est qu'ils passent leur nuit en prière. Quand ils dorment, ils prient. Vous savez d'ailleurs, il y a toujours un mystère. Le modèle était David. David n'a jamais dormi. Et pendant qu'il dormait, il était réveillé et il chantait, il priait. Vous savez d'ailleurs que l'esprit ne dort jamais, c'est le corps qui dort. Ce qu'on appelle le rêve, c'est le moment où on va se réveiller, alors on a un peu contact avec la vie de l'esprit. C'est dans un monde qui n'a tellement rien à voir avec celui du corps que c'est tout embrouillé des images qui ont leur propre langage sibyllin. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est là, l'élotéhem tfilot. Mais peut-être quelque chose de plus direct. Leur nuit, c'est des prières. Réfléchissez à ça. Okay. Et vimotéhem tomot. Et leur jour, c'est des jeûnes. Lael belibam metzilot. Pour Dieu, dans leur cœur, il y a des chemins. Velahem bekitso mekomot. Et pour eux, sur son trône, il y a des endroits. C'est joli comme poésie. Darkam sulam la'alot, et leur chemin, c'est une échelle pour monter, ad Hashem Elokecha, jusqu'à celui qui est tendu. Donc, pourquoi tu restes endormi? T'as pas intérêt. C'est très joli tout ça. On continue. Demaot tazil enecha, que tes yeux ruissellent de larmes, betit rachet al pesha'im, et regrette, soit en repentir sur les fautes, betit hanen les moul konecha, et soit en supplication devant celui qui te possède, konecha. Ce mot, on le traduit habituellement ton créateur. Mais ce n'est pas un créateur qui t'a jeté dans l'espace, c'est un créateur qui t'a racheté en te créant. Il est ton possesseur, et pas seulement ton créateur comme un. J'ai souvent dit ça, j'ai beaucoup d'amis qui sont des artistes. Ils font des peintures, des sculptures, n'importe quoi, et puis les vendent. Vous vous rendez compte? Okay. Comme s'ils vendaient c'est comme s'ils vendaient leurs enfants. Bon, ça suffit de dire comme ça. Les artisans du Moyen-Âge n'aimaient pas vendre leur production. C'était un deuil pour eux. Et quand un client dit, t'as pas intérêt à acheter ça, laisse-le chez moi. Vous avez compris, c'est la grande différence, je crois, avec l'artiste artisan. Ça lui fait de la peine quand le bahut qu'il a fait, ça s'en va chez quelqu'un. Et puis les marchands de galeries, là, aujourd'hui, là, ils ont un seul souci, c'est de vendre leurs œuvres. Bon, c'est pas de la plaisanterie, je crois qu'il y a là un problème très profond. La civilisation moderne, c'est une civilisation de magasins où il y a des circulations de valeurs qui n'appartiennent à personne. Alors qu'avant, les valeurs appartenaient à leur créateur. Vous avez compris un peu ce que je veux dire ? Il restait une chose, ils mettent leur signature. Donc, c'est vrai du tout. Alors, vous voyez pourquoi je n'écris pas de livre ?
Donc, je reste. C'est vrai ? Le livre, même si on le vend, il reste quand même.
Non, c'est pas la vraie raison. Mais voilà. Vous connaissez la vraie raison ? C'est que j'ai pas le temps. C'est vrai ?
On vend qu'il y a les cassettes.
Oui, ça n'a rien à voir. Non, les cassettes, ça n'a rien à voir.
Non, mais c'est vrai que. Mais c'est rien, finalement.
Comment ?
Mais c'est rien.
Je ne comprends pas.
Je
ne
vais pas t'en faire du coup.
J'entends pas.
C'est...
Vous ?
Mais c'est rien.
Et vous, c'est rien ?
Moi, j'ai rien à
l'écouter. Je ne sais pas si vous savez que. Le fait de. Je vais raconter. Un jour, j'ai eu un dialogue avec M. Nair il y a très très longtemps. Il m'a interpellé en me disant, mais pourquoi tu n'écris pas ? Je dis, on va se partager le travail. Vous faites des livres, moi je vous fais des juifs pour les beaux livres. Vous savez, il y a une mitzvah. Il faut écrire tout ce qu'on enseigne. C'est sûr, vous allez l'écrire un jour. Mais il y a d'autre part le fait que seul Dieu a le droit d'écrire. Et il faut être... orgueilleux pour écrire. Vous croyez pas ?
Non.
Bon. Alors c'est qu'on n'écrit pas, c'est qu'on fait des écritures. C'est inversé. Ve'amirtav l'Elohim hu.
La preuve, c'est qu'on ne se contente pas de la lecture de l'écriture. On vient à beaucoup.
Oui. Mais j'ai tellement peur que, bref, qu'on ne sache pas lire. Non, mais je vous dirais, la vraie raison, c'est ça, c'est que j'ai pas le temps. Quand j'aurai le temps, si Dieu veut, quand je prendrai ma retraite, quand un rabbin ne prend jamais sa retraite. Alors, on continue. Demarot tazil enecha. Que ce soit. Ah non, je recommence, c'est vrai. Que ce soit des larmes que tes yeux distillent, demarot tazil enecha, ça veut dire que. Il y a quand même un niveau de regret qui n'est authentique que si vraiment il est pleuré. Petit haret al peshaim, petit hanel le moul konecha. Ah oui, je parlais de le créateur, ça se dit on connaît. Ve'al titchar ba mereim, et n'entre pas en compétition avec les méchants. Ve'ashpel meod et geonecha. Alors vous avez le et entre parenthèses, ça doit être dans une édition, on a ajouté le et, mais d'après le rythme de la phrase, ça fait une syllabe de trop, et comme on n'a jamais l'habitude, quand on réédite un livre, de changer quelque chose, même s'il y a une faute dans l'édition antérieure, on le met en parenthèse. Vous savez ça. Ve'ashpel me'od geonecha, ve'kachatov kinaim, et préfère de prendre le bien parce qu'il est meilleur. Naim. Bon, naim, ça veut dire délicieux, ça veut dire doux, ça veut dire. Parce que c'est agréable. De s'occuper du bien. C'est plein d'humour, ça. Kabed el Mehonecha, rend honneur au Dieu de Mehonecha, ça veut dire qu'il te donne des possessions. Hon. Au Dieu qui t'enrichit, le'et ya'alou moshe'im, au temps où monteront les sauveurs, ça c'est une allusion à la prophétie de Malachi qu'à la fin des temps, Ve'alou Moshe'im al-Artzion nishpot et ha'esa ve'ayit al-Hashem ha'melucha. Au temps de Ovadia, qu'est-ce que j'ai dit ? Malachi, c'est Ovadia. Au temps où monteront les sauveurs, ve'issou kol ha'monecha, et ils élèveront la voix de tes multitudes, hikon nikrat elohecha, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Hikon nikrat elohecha. On continue. Dalim asher afar yesodam, dalim. Dal, ça veut dire les pauvres, les humbles. Asher afar yesodam, qui ont leur fondement dans la poussière. Ahochma me'ain. La sagesse vient du néant. Après, je reprendrai chaque expression. Umotara adam mina behema ain. Et le surplus de l'homme sur la bête, c'est rien. Rak l'héroé stour kevodam, uniquement pour ceux qui voient le rocher de leur gloire, reoutlev veloreout aïn, par vision du cœur et pas par vision des yeux, ou motsae maïene sodam, et ce qui sort, motsae, les choses qui sortent des sources de leur sodam, de leur secret. Faites attention, il y a certains textes, pas celui-là, où vous avez Motsae Mayene Yesodam. Alors, ces textes-là sont faux, c'est Sodam, pas Yesodam. Yesodam, c'est les fondements, Sodam, c'est le secret. Atovi Miaim, meilleur que le vin. Kichen Basar Vadam, car c'est ainsi, homme de chair et de sang, Timtsa et Elokecha, que tu trouveras ton Dieu. C'est-à-dire là, on rentre de manière plus profonde, derrière les apparences. Alors tout cela vient des versets. Je reprends. A chokma me'ain kimatze. C'est un verset. Ve'a chokma me'ain kimatze. Et la sagesse, dans le verset, c'est une question. Ve'a chokma me'ain kimatze. D'où me'ain, d'où me'efo, me'ain kimatze. D'où se trouvera la sagesse? Ici, c'est pris dans le sens affirmatif. La sagesse procède du néant. Alors, comme on l'expliquait peut-être à un niveau un peu philosophique, la réflexion sur le néant mène à la sagesse. Mais en réalité, du point de vue de la Kabbalah, c'est beaucoup plus simple, j'allais dire. C'est la relation entre la Sphira Chochma qui vient de la Sphira Keter. Et par rapport à la Sphira Chochma, la Sphira Keter est appelée Aïn. Ça veut dire, le niveau d'être de la Sphira Keter, d'où provient le monde, est tellement différent de l'existant que c'est néant par rapport à l'être. Si nous, nous sommes l'être, c'est un être tellement plus absolu qu'il est néant par rapport à nous. C'est un néant positif, et non pas un néant de privation. Et alors, il y a un autre verset, qu'on lit d'ailleurs dans la prière du Shabbat, où Montara Adam Minabe Maïn, et qu'on lit d'ailleurs dans la prière du matin. Et dans le rite Ashkenaz, ça s'arrête là. Montara Adam Minabe Maïn. Alors dans le rite Sfarat, on ajoute une autre phrase, Levada Neshama Teora Shi Atidal Tendin Vehjvon. Il y a un autre petit.